Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour commenter l'actualité aujourd'hui, Virginie Legueux, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour, bonjour Virginie, avec en une le mariage de Charlotte Kaziragi j'ai le nom de son époux, mais Dimitri Rassam, le fils de Carole Bouquet. Très jolie photo. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. Bonjour à vous. Bonjour. Laurence Marchand-Taillade, bonjour, présidente de Force Laïque. Et bonjour. Kevin Bossuet, bonjour, vous êtes professeur d'histoire.
Bonjour.
Et vous collaborez de temps à autre avec Valeurs Actuelles. Voilà, pour vous situer un peu. Coup de cœur, coup de gueule. Jean-Luc, c'est d'actualité. Voilà, non, votre coup de cœur, c'est un coup de cœur sportif, tennistique.
Oui, parce que moi, le sport populaire, j'aime pas.
Il faut que vous parliez bien dans le micro.
Oui, non, mais je suis tennisman depuis très longtemps et j'admire ce joueur. Oui, j'étais classé 15-3. Maintenant, je suis plutôt autour de 15-5-30 à cause de mes mauvais genoux. Mais plus sérieusement, c'est Roger Federer qui est pour moi, en dehors du problème de l'argent, parce que dans le tennis, il y a aussi beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans, est sûr, par passion, je pense, est à un niveau absolument... Pour moi, c'est un artiste, à la différence d'un Nadal qui est tout puissant et qui frappe lourdement la balle. Là, c'est vraiment... sorte de danseur. Et donc voilà, je voulais rendre hommage à cet homme qui risque de se faire battre tout à l'heure par Nadal.
Ouais, vous pensez qu'il va se faire battre ?
Bah oui, parce que l'autre, c'est vraiment...
c'est une machine. Hein.
C'est une machine. Et puis je voudrais quand même dire aussi, puisque c'est pas un coup de gueule, mais c'est quand même, j'ai appris tout à l'heure, et c'est Amélie Mauresmo qui en a parlé, que les deux demi-finales femmes vont se dérouler dès 11h, donc en ce moment, sur des courts annexes. Ouais. Alors que le cours Suzanne Lenglen, qui est le deuxième cours après le cours Philippe Châtrier, ne sera pas ouvert. Donc c'est vraiment...
Et pourquoi disant, il y a une raison
Je ne sais pas.
Ouais. Ce n'est pas logique. Parce qu'il y a moins de monde,
En général, les tournois de femmes aussi attirent beaucoup, ouais, beaucoup de gens. Et c'est agréable de voir aussi des femmes qui aussi maintenant frappent aussi presque comme les hommes, servent presque comme les hommes. Mais je trouve que c'est des jeux intéressants et de les reléguer sur des cours annexes, c'est pas une très bonne idée. J'aime beaucoup Guy Forget, mais là, Guy Forget, à mon avis, s'est trompé.
On va parler tout à l'heure du foot féminin ce soir. Enfin, foot, alors il paraît qu'il ne faut pas dire foot féminin, mais football de l'équipe de France de foot femme. Voilà, ce soir. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'aime pas le foot féminin ou qu'on n'y voit pas forcément un grand intérêt? On va parler du retour de Marion Maréchal Le Pen dans la vie politique. 36% des Français, selon notre sondage IFOP Fiducial Sud Radio Paris Match, nous dit que 36% des Français y sont favorables. Et puis on parlera du 80 km/h également avec vous. Kevin, votre coup de gueule ?
Un coup de cœur.
Coup de cœur, bon.
Donc, voilà.
Ça change ?
Oui. Un coup de cœur donc, pour tous ces militants politiques qui se sont investis au cours de la campagne des européennes. Ce sont des gens dont on ne parle jamais, qui étaient présents sur le terrain, qui préparaient les réunions, qui collaient les affiches, qui tractaient. Et ils n'ont souvent aucune considération au sein des partis politiques. Moi, j'ai beaucoup suivi ceux qui militaient pour François-Xavier Bellamy, qui se sont pris une claque le soir, notamment des résultats. Ils n'ont eu aucun réconfort, ils n'ont rien eu du tout. Et même le lendemain, vous avez le directeur de la campagne, Geoffroy Didier, qui torpille notamment la campagne de François-Xavier Bellamy. Donc, à la déception, c'est joint le dégoût. Et voilà, j'aimerais saluer ces gens parce qu'ils font vivre véritablement la démocratie française. Et sans eux, la vie politique française ne serait pas
si
ce qu'elle est.
Je peux ajouter une petite précision. Geoffroy Didier n'a pas torpillé l'ensemble de la campagne, mais il a mis en accusation les propos de François-Xavier Bellamy sur l'affaire Vincent Lambert. Je termine. Oui. Et j'ai croisé par hasard François-Xavier Bellamy 2 heures après. Je lui ai demandé si Geoffroy Didier s'était exprimé au moment où il a prononcé ces mots sur ce qu'il estimait être une mauvaise ligne. Et François-Xavier Bellamy m'a assuré que Geoffroy Didier ne lui avait pas dit un mot au moment où il a prononcé ces mots-là sur l'affaire Lambert. Mais les reproches de Geoffroy Didier portaient sur ce point précis, en disant que ça avait fait perdre une partie du vote des électeurs de droite.
Je pense que le revirement de Geoffroy Didier, qui était quand même très très proche de Bellamy pendant la campagne, je crois même qu'il a assuré les fonctions de directeur de campagne, sont en réalité le révélateur du tournant qui est en train de s'opérer chez les Républicains, où il y a des appels à davantage de laïcité, un recentrage républicain. Et à mon sens, c'est vraiment ce qui annonce ce recentrage républicain qui est demandé par un certain nombre d'entre eux. Et à mon avis, Valérie Pécresse va aller sur ces territoires-là. Après, on verra ce que l'avenir va nous dire.
Alors, à l'extérieur, Valérie Pécresse, elle s'en va, donc elle va faire de l'extérieur.
Oui. Moi, je pense aussi aux militants des partis qui ont fait moins de 3%.
Oui. Qui ne seront pas remboursés.
Et qui ne seront pas remboursés et qui ont collé quand ils avaient des affiches, parce que toute liste n'avait pas des affiches. Donc, je trouve que la démocratie devrait supprimer cette histoire d'argent, de mur de l'argent, parce qu'il fallait à peu près avoir 700 ou 800 000 euros pour simplement avoir des bulletins et des professions de foi. Et ça, je trouve ça scandaleux.
Le seuil, c'était 500 000 euros. Pour faire campagne.
Pour les bulletins, oui, c'était à peu près 400 à 500
euros. Mais en tout cas, coup de cœur pour ces militants. Un mot sur Valérie Pécresse, parce que j'ai reçu un mail hier d'une auditrice, amie, qui me dit « J'étais très choquée de l'émission d'hier parce qu'on a effectivement été pas très sympathique en parlant de la démission de Valérie Pécresse. » Donc, un mot de cette démission, du fait qu'elle quitte Les Républicains, Virginie.
On peut s'étonner de son timing, en fait. Ouais. Je peux comprendre, elle n'a jamais caché son désaccord avec Laurent Wauquiez, et contrairement à Xavier Bertrand qui lui avait choisi de quitter immédiatement LR et de se mettre à l'extérieur du mouvement, elle est restée en disant « je vais le faire changer de l'intérieur ». Mmh. Elle n'a rien dit au soir des Européennes, elle n'a rien dit lorsque Gérard Larcher a rassemblé une partie des responsables de LR, et elle a attendu le lendemain ou 36 heures après pour dire qu'elle partait. Je pense que l'équation qui s'offrait à elle était un peu compliquée. Elle ne voulait pas reprendre LR, et donc si elle était restée à l'intérieur, elle aurait été cadenassée. C'était elle-même qui s'est cadenassée, parce qu'elle ne veut pas, mettre les mains dans le cambouis. Et là, c'est vrai que le cambouis, il est extrêmement fort, extrêmement important. Et rester à l'intérieur en disant « je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas non plus assumer le fait d'imposer ou de travailler à une ligne très différente. » Bon, elle a choisi de partir. Quelques-uns l'ont rejointe. Mais je m'interroge sur la pertinence du moment qu'elle a choisi. Elle pouvait partir avant même d'attendre 10 jours, au lendemain des Européennes, en disant « décidément, il n'y a rien eu à faire. Cette ligne-là est un échec, je m'en vais. » Mais là, pourquoi 10 jours après, je ne sais pas.
Oui. En termes de timing, alors effectivement, c'est critiquable, parce qu'elle a eu des prises de position diverses et variées entre le début de la campagne et la fin de la campagne, et puis cette démission. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas dire que Valérie Pécresse n'est pas les mains dans le cambouis. Elle est quand même présidente de la région Île-de-France. Elle a fait beaucoup de choses, et en l'occurrence, elle a quand même fondé un parti qui n'est pas aujourd'hui un parti de premier plan, mais elle a quand même fondé un parti qui rassemble un certain nombre de bonnes volontés et aussi de figures montantes. Je pense qu'elle est dans une phase de reconstruction depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Effectivement, le problème, c'est à mon sens vraiment le timing. Après, il va falloir voir aussi ce qu'elle va vouloir défendre, et tout se discute et tout est justifiable à mon sens politiquement.
Ouais. Il a noté aussi que ceux qui partent, il y en a deux qui étaient les anciens candidats contre Wauquiez.
Oui, absolument, à la présidence de LR.
Absolument. Un mot sur le départ de
Florence Portelli et Maëlle de Calan.
Moi, je la trouve parfaitement cohérente. Si elle ne se reconnaît plus dans le parti dans lequel elle est, c'est normal qu'elle parte. Elle a bien compris que la base militante n'était pas en accord avec sa ligne centriste. Donc, elle part, c'est tout à son honneur.
D'accord. On continue notre tour de table. Laurence, vous, c'est ce qui vous a interpellé dans l'actualité, c'est la hausse des suicides des pères séparés de leur enfant.
C'est ça. Alors, aujourd'hui, il y a 2 millions d'enfants qui ne voient pas régulièrement leur papa. Il y en a 600 000 qui ne le connaissent même pas. Et il y a, dans la plupart des procès qui sont intentés dans les séparations, 80% des cas, les mères récupèrent la garde des enfants et quelquefois peuvent, par l'éloignement géographique, faire en sorte que les papas ne voient plus du tout leurs enfants. Ce qui n'est pas qu'un problème de papa, mais aussi un problème d'enfant, puisqu'un enfant, pour pouvoir être élevé convenablement, pour pouvoir se construire convenablement, il doit aussi connaître ses deux origines. Et en l'occurrence, donc, tous les ans, on a 1300 pères qui se suicide dans l'indifférence collective, et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment prendre en considération non seulement la souffrance des pères mais aussi celle des enfants, et renvoyer aussi les femmes à autre chose que leur rôle de mère, parce que je pense que si aujourd'hui la loi est incapable d'évoluer, c'est parce qu'on considère que la femme doit être assignée à son rôle de maman, et finalement être féministe c'est considérer que il devrait y avoir une parité totale dans le rôle de parent, et donc faire en sorte qu'il y ait davantage de garde partagée pour que les pères non seulement prennent leurs responsabilités, c'est une question de responsabilité, dans les devoirs et les obligations qui ne sont pas toujours le cas. Donc c'est vraiment respecter les droits et les devoirs des papas, mais aussi les droits des enfants.
Question compliquée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de pères qui ne s'occupent pas de leurs enfants.
Tout à fait. Créer ce devoir, c'est obliger aussi les pères à se mettre face à leurs responsabilités de père. Et je pense que là-dedans, on doit aussi créer très, très très, très rapidement, parce que c'est vraiment un problème sanitaire, là. Créer le délit d'entrave parentale, parce qu'il n'est pas normal qu'une femme puisse décider de partir vivre à 850 km de son ex-mari, ôter toute possibilité à cet ex-mari de voir ses enfants, et donc enlever à ses enfants la figure d'un père.
Moi, je trouve que le combat féministe, il est plutôt sur les pensions alimentaires non payées.
Je pense
payées,
qu'on ne doit pas déconnecter les deux, parce que les deux sont souvent liées.
Je partage totalement, parce que d'abord, je l'ai vécu moi-même, et mon fils aîné, et dans ce cas-là, son ex-femme est partie vivre aux Pays-Bas. Et donc, le petit, c'est le petit qui trinque, puisqu'il fait des allers-retours en train, 5 heures pratiquement,
quand ils peuvent le faire, parce que beaucoup de pères ne sont pas en mesure de payer ces allers-retours. Et du coup, ils ne voient leurs enfants que quand ils ont économisé suffisamment pour payer les billets, parce que les mères se refusent à contribuer à ces allers-retours. Donc, je ne dis pas que c'est la majorité des mères, mais il y a de plus en plus de mères qui utilisent la loi de cette façon-là, puisque la loi finit par valider la nouvelle adresse de la maman, même si elle part sans le consentement du papa. Absolument. Donc tout ça doit être réfléchi différemment. Et je pense qu'un certain nombre de pensions alimentaires seraient certainement versées de façon plus aisée si on prenait en considération ce problème-là. Donc je pense que les deux ne doivent pas être déconnectés, on ne doit pas opposer les deux. Il y a des mauvais pères, il y a des mauvaises mères, et on doit être capable de dire les deux choses.
C'est pas les enfants
Virginie,
qui doivent trinquer.
Il est vrai que les mères ont parfois un sentiment de toute puissance qui leur permet de penser que, après tout, le père dont elles sont séparées ou divorcées, et quels que soient les contentieux qui peuvent y avoir entre eux, après tout, ce père-là, on peut le mettre de côté faire une vie avec les enfants sans le père.
Et on bien dans le micro, Virginie.
Et on a bien vu le nombre de moyens qu'ont utilisé les femmes pour éliminer le père de la vie familiale, et notamment l'incroyable hausse des accusations d'abus sexuels, dont un grand nombre se sont avérées totalement infondées. Alors, c'est vrai que les mères, aujourd'hui, peuvent partir ailleurs, refaire leur vie sans l'accord du père, et c'est un vrai souci, bien sûr pour les pères, mais surtout pour les enfants qui, dans ce cas-là, servent, disons, d'objet utilisé entre les parents, d'objet de chantage entre les deux parents. Exactement. Et c'est l'enfant qui trinque, ça c'est parfaitement exact. Voilà.
Mais l'aliénation parentale doit maintenant être reconnue, et c'est très important. Il faut
Je trouve que c'est un dossier très très compliqué, parce qu'il y a eu des associations de pères qui n'étaient pas très très nettes non plus. Il y a des dossiers très compliqués, et je trouve que Sacha a raison. Il dit que c'est extrêmement compliqué pour juger, il faut connaître tout le dossier. Donc je pense que c'est aussi du cas par cas. Donc vous avez raison sur le en général. Mais je crois qu'il y a des cas particuliers et qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas très nettes non plus de la part de certains pères.
Mais il y a il y a des pères.
Mais vous avez raison
d'attirer le regard là-dessus. Et il y a des mamans qui se comportent aussi, je suis désolée,
très mal.
Très très mal.
Voilà. Virginie, plus joyeux pour finir ce tour de table.
Un petit coup de cœur pour un acteur qui est très aimé des Français, qui a 84 ans, qui s'appelle Pierre Richard, et qui reprend un spectacle qu'il avait déjà joué il y a 2 ans, qui s'appelle Petit éloge de la nuit à la Scala. Et je trouve que les déclarations qu'il fait au fil des interviews qu'il donne pour parler de son nouveau spectacle sont formidables. Mmh. Il dit qu'il ne peut vivre que dans l'indignation, et que les gens, même avec lesquels il n'est pas d'accord, le stimulent justement dans son indignation. Il a une autre phrase que j'aime beaucoup. « Je suis un paresseux qui a travaillé tout le temps. Je cours peut-être pour ne pas m'apercevoir de la brièveté d'une vie. » Voilà, donc je le trouve très sympathique. Je vais aller voir son spectacle que je n'avais pas vu lorsqu'il l'a mis en scène il y a 2017.
Ouais, Pierre Richard. Je vais surenchérir sur votre coup de gueule sur le tennis. Effectivement, je viens de voir ce qui est de la déclaration d'Amélie Mauresmo. Elle dit tout le monde est d'accord sur le fait que le match du jour c'est Federer-Nadal, mais quel message envoyons-nous en prenant la décision de mettre les deux demi-finales femmes à 11h sur les courts 2 et 3 c'était pourtant simple de rouvrir le Langlaine et le Châtrier, de faire les deux matchs de femmes à 13h suivis des deux matchs d'hommes. C'est vrai que là pour le coup on va y revenir sur le foot féminin, on en a plein la bouche, mais il y a des choses comme celle-ci qui sont incroyables et incompréhensibles et inadmissibles. Alors effectivement, Cédric nous dit c'est parce qu'il y a moins de spectateurs. C'est vrai que quand il y a des matchs de femmes, il y a souvent moins de spectateurs. Donc
c'est pas toujours vrai. Ça dépend
là, évidemment. Enfin, les demi-finales, c'est pas normal.
Mais les quatre qualifiés pour les demi-finales chez les femmes sont pas celle qu'on attendait. Donc c'est peut-être aussi cette raison, mais ça ne se justifie pas.
Mais c'est
pas.
Vrai que le signal envoyé n'est pas terrible. Allez, on se retrouve dans un instant. Dites-nous si vous allez regarder le match de foot ce matin à l'équipe de France femmes. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'a pas envie de le regarder comme Alain Finkielkraut ? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler avec vous de, du retour éventuel de Marion Maréchal-Le Pen. Est-ce que vous souhaitez qu'elle joue un rôle dans la vie politique française? On va parler du 80 km/h et puis de ce soir, premier match de l'équipe de France de foot féminine. Allez-vous regarder ce match 0826-300-300. Alors, j'ai pas beaucoup de chance parce qu'autour de la table, je n'ai que des gens qui ne regardent pas le foot. Mais je voudrais qu'on écoute parce que le propos, c'est peut-être aussi autour des propos d'Alain Finkielkraut, parce que moi, timidement, j'ai commencé en début de semaine à dire que je trouvais que c'était une énorme opération commerciale. Quand j'interrogeais des hommes de mon entourage qui regardent le foot, ils me disaient ça n'a pas grand intérêt. Sauf que c'est une chose qu'on ne pouvait pas dire. Et Alain Finkielkraut, comme à son habitude, a dit ce qu'il pensait.
Football féminin.
Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin.
Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi?
C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin.
Mais
l'égalité, bien sûr l'égalité. Mais un peu de différence, si vous voulez.
Pardonnez-moi.
C'est très bien que les femmes jouent au football. C'est très bien.
Non, mais vous le prenez avec condescendance.
Mais je le prends pas avec condescendance. Mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes.
Mais pourquoi elles sont formidables?
Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud.
Mais
je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin.
Vous avez tort.
J'ai tort.
Bon.
Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes et puis un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie. Pas envie. C'est tout.
Alors évidemment, tombereau d'insultes après les propos d'Alain Finkielkraut. Et hier, il s'est excusé d'une certaine manière. Écoutez.
J'ai été interrogé à brûle-pourpoint sur la Coupe du Monde féminine. J'ai fait la réponse que j'ai faite. Visiblement, c'est ce qu'on appelle dans la novlangue d'aujourd'hui un dérapage, puisqu'il existe un code de la route intellectuelle et une police qui sanctionne tous les écarts. Je vous remercie. J'ai allumé un incendie. L'incendie, c'est ce qu'on appelle, je crois, le buzz. Bien, je vais l'éteindre sans me livrer à une autocritique. Alors, d'abord, je souhaite bonne chance aux 11 joueuses qui, ensemble, vont écrire l'histoire. Je n'ai aucune animosité ni aucun mépris pour ceux que passionne cette compétition. Je pense que la présence des femmes dans l'espace public et à tous les échelons de la vie professionnelle est une bénédiction. Mais je mets en garde contre le risque de sacrifier la différence sur la différence des sexes en l'occurrence sur l'autel de l'égalité.
Et ben voilà. Et alors on a que des auditeurs qui nous disent le foot c'est bien, nous disent les médias. Si on préfère la peinture, on est donc facho, bien pensance médiatique. Pierre-Henri, rien à faire de la Coupe du Monde féminine. Et surtout de cette pensée, on ne peut plus rien dire contre les femmes de peur de se faire traiter d'antiféministes. Chaque personne est libre de regarder ou pas un sport. Thierry nous dit je déteste ce sport et plus encore que le fric qu'on en fait, que ce soit des femmes ne changera rien. Bref, voilà, c'est un peu la teneur de vos réactions autour de cette table. Virginie ?
Moi, je dois avouer que je ne regarde. Je crois que je n'ai jamais regardé un seul match de foot masculin de ma vie, donc je ne regarderai probablement pas plus un match de foot féminin. Je les encourage bien sûr à faire la meilleure trajectoire possible. J'aime beaucoup Alain Finkielkraut et la façon qu'il a eu de faire semblant de s'excuser au nom de la pression et de la novlangue. Ouais. C'est-à-dire, il s'excuse tout en maintenant absolument ses positions. Moi, je trouve qu'Alain Finkielkraut, c'est un homme extrêmement courageux qui a toujours refusé de céder au politiquement correct, au consensus, qui a assumé ses idées, qui a fait progresser beaucoup. J'ai beaucoup aimé son comportement quand il a été insulté par les Gilets jaunes. Il est allé au procès, mais il avait lui-même pas porté plainte. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de tout à fait respectable. Et sa première déclaration, ouais, comme sa seconde, franchement, m'amuse beaucoup.
Oui, sur le fond, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'aime pas
le... Moi, je le dis. Ouais. Je n'aime pas le foot masculin, je n'aime pas
général,
le foot féminin. Donc, il n'y a pas de tabou. Je suis une femme et je ne dirais pas que je l'aime parce que je suis une femme. Ça, c'est un sport qui ne m'intéresse pas.
Sur le plan du spectacle, quand on voit, par exemple, le tennis que je connais mieux, au départ, le tennis féminin n'intéressait pas grand monde.
C'est vrai.
Et puis, c'est vrai que les femmes, peut-être, se sont plus entraînées qu'auparavant. Et le spectacle, je pense, qui est un peu différent, ça frappe peut-être un peu moins fort encore que c'est de moins en moins vrai, est aussi intéressant. Et quand on regarde le basket, quand on regarde le volley, le handball, où on est, je crois, champion du
handball.
Monde. Le handball, pardon. je pense que c'est, au niveau spectacle, c'est un grand intérêt. Il ne faut pas opposer. voilà, de ce côté-là.
Non, mais là, il y a quelque chose d'un petit peu artificiel. Moi, c'est un petit peu ce que je reproche. J'ai rien, contre ça, mais je trouve qu'il y avait une parole un petit peu cachée d'hommes qui... Parce que je dis, moi, toute la semaine, j'ai eu des chroniqueurs qui ont dit, voilà, mon coup de cœur, c'est sur le football féminin, c'est un côté un peu chic, etc. Kevin, pas fan de foot non plus.
Non, je ne suis pas fan de foot du tout, mais ça, c'est une polémique complètement stérile. Enfin, c'est le politiquement correct dans toute sa splendeur, qui est d'ailleurs à géométrie variable, parce que quand Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, se fait insulter sur les ondes de France Inter, personne ne dit rien. Mais quand Alain Finkielkraut critique le foot féminin, alors tout ça, il y a toute la horde des féministes, des gauchistes aux bien-pensants qui sont sortis. Enfin, c'est complètement ridicule. Alors après, sur le fond, c'est bien que les femmes puissent jouer au football. Il y a des évolutions qui sont quand même bénéfiques. Hein. Il a fallu attendre 1944 avant que les femmes puissent voter. Il a fallu attendre 1965 avant que les femmes puissent ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Ben, le fait qu'elles puissent jouer au football, ben, c'est très bien. Il n'y a pas lieu à polémique. Ceux qui aiment le foot, ils regarderont. Ceux qui n'aiment pas, ne regarderont pas.
Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais réagir sur le fond, puisque en fait, les propos d'Alain Finkielkraut renvoient à non pas l'égalité femmes-hommes, mais plutôt à leur complémentarité. Ouais. Et en l'occurrence, c'était les propos qui étaient déjà défendus au moment où on a commencé à se poser la question de l'égalité femmes-hommes, plutôt au moment de la Révolution française, où seulement Condorcet, suivi de l'homme de Gouges, ont défendu le principe d'égalité entre tous les citoyens et donc entre les hommes et les femmes. Donc, c'est une dualité qui existe déjà depuis très longtemps. Ces deux combats entre l'égalité femmes-hommes et la complémentarité, qui est souvent utilisée d'ailleurs, cette fameuse complémentarité, pour renvoyer les femmes au foyer, au maternage, à l'entretien des enfants, et puis les hommes plutôt à des fonctions un peu plus valorisantes. Donc ça, c'est la première chose et la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est la question des femmes et de l'accès au sport. Et ça, ça ne doit pas être traité à la légère à mon sens, puisqu'il y a quand même encore des pays qui pratiquent un apartheid sexiste dans le sport. L'Iran, l'Arabie Saoudite, qui ne donne pas accès au sport, aux femmes, non seulement au sport, mais aussi au stade. Et donc, je pense qu'on doit se battre à travers la Coupe du Monde de foot, mais aussi à travers de Paris 2024, sur le fait que toutes les femmes doivent avoir accès au sport de la même façon, et sur le fait qu'on doit respecter la charte olympique, et notamment son article 50, qui prévoit qu'il n'y a ni appartenance politique, ni appartenance religieuse, et donc pas d'exhibition de ce type-là sur les stades, parce que c'est comme ça qu'on pourra aussi combattre le voilement des femmes, qui est un vrai problème dans ces pays-là.
Allez, on se retrouve dans un instant avec vos appels. William, en particulier, sera avec nous. 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous, on est sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et on a William en ligne qui voulait réagir au sujet sur non, pas le prince. Je ne pense pas. William, bonjour. Est-ce que vous êtes prince?
Oh, je pourrais l'être.
Vous pourriez.
Un troubadour.
Un troubadour. Bah, très bien, on est ravis.
Un prince. Alors, troubadour.
Le foot. Ce soir, est-ce que vous allez regarder? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, si j'en ai l'occasion, oui, pourquoi pas, puisque j'ai pas d'animosité envers le foot. Mais je vais commencer par un petit prologue. Comme je viens de vous le dire, je suis troubadour. Je suis occitan, vivant sur les terres justement des troubadours, qui sont bien connus en leur temps pour avoir sacralisé la femme avec un grand F majuscule. Alors je dis cela parce que aujourd'hui, au-delà du harcèlement avec la surmédiatisation, et je sais que vous en avez parlé Valérie, la surmédiatisation, on subit une vraie dictature de la pensée. Pour être factuel, je vais citer deux titres. Le Monde titre quelque chose moi qui m'a surpris. La place des femmes dans le foot est un enjeu démocratique et social. D'accord, la place des femmes dans le foot est un enjeu démocratique et social. L'Express, comment démonter les clichés sur le foot féminin en quatre leçons. Ça me fait penser au petit livre rouge de Mao ou de Karl Marx, vous savez, les règles. Ouais. Alors, moi, lorsque j'entends les défenseurs, pour pas dire les défenseuses, du foot féminin, je n'entends que des arguments de rééducation ou d'éducation. Vous voyez, après l'intervention de M. Finkielkraut que j'ai regardé, qui a le droit de penser ce qu'il veut. Ouais. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais les arguments des gens qui étaient, des dames qui étaient sur le plateau, j'en ai entendu un qui m'a, mais alors, révulsé. Je me moque de ce que pense M. Finkielkraut et de ce qu'il puisse dire, mais je me sens obligé d'amener ma fille de 10 ans, ma petite fille de 10 ans, voir un match de foot féminin, pour qu'elle voit que la femme est égale à l'homme. C'est-à-dire qu'on amène sa gamine de 10 ans pour l'éduquer en lui disant « Tu vois, ma chérie, on est égal à l'homme. » Alors moi, je suis désolé. On vit dans une société où, alors, j'adore la femme avec un grand F, mais moi, je ne veux pas que demain, on soit obligé de s'excuser d'être un homme, d'être hétéro, d'être blanc et chrétien. Et ça concourt dans ça. Maintenant, on doit, alors, dès qu'on va dire « Ah, ben non, j'aime pas le foot féminin. Ah, t'es un fumier, t'es un macho, t'es un... » C'est un facho. Mmh. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bah,
je
pense écoutez, c'est clair. Oui, oui, il y a beaucoup de gens, on a les réactions sur le Facebook. Michael nous dit, ce n'est pas le football féminin qui pose problème, c'est le discours autour. Et Michael nous dit, je regarde le Foot League 1 féminin sur Canal+, et franchement, le niveau n'est pas bon. Claudine, on a le droit de ne pas aimer un sport, quel qu'il soit, même si ce sont des femmes. Pierre-Henri, question, pourquoi Macron a décoré l'équipe de France de foot et pas l'équipe de hand, elle aussi championne du monde? Je ne sais pas s'il les a pas décorés. Si, je crois qu'il les a décorés. Hein.
Magique, vous nous dites.
Non, il ne les a pas décorés. Donc, Pierre, vous avez raison. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question. J'aime pas le foot ni aucun sport qui rapporte du fric à outrance. Quand on voit que des millions de pauvres contribuent à enrichir encore plus une poignée sportive, je crois que sur les femmes, ce n'est pas exactement
c'est
pareil.
Moins.
C'est 10 fois moins. Alors là, il y a un vrai sujet.
Là, il y a un vrai sujet.
Il y a un vrai sujet de débat. Et c'est vrai que bah, vous allez un petit peu dans ce. Dans ce sens, la Virginie, vous vouliez
oui,
réagir
je voulais,
à ce que disait William.
Répondre à monsieur qui a bien raison de dire qu'il n'y a pas de honte d'être blanc, hétérosexuel,
homme et plus de 50
homme
ans.
Homme catholique et chrétien. Mais je voulais aussi moduler un petit peu son propos. Malgré tout, faire comprendre aux filles, à nos filles et aux filles de nos filles qu'elles peuvent avoir accès à des sports auxquels elles ne pensaient pas pouvoir avoir accès hier est très important. Et j'allais même dire c'est très important pour tout un tas de choses. Les femmes, notre génération, la génération du dessus
bien sûr.
Et la génération qui y suit ont souvent manqué d'audace pour plein de choses parce qu'on leur disait ça non c'est pas pour toi, ça non c'est pas vrai, ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le dire, ça tu y arriveras pas. Et effectivement éduquer les enfants, nos enfants et leur montrer, je dis pas les emmener à un match de foot, ça me paraît pas forcément utile, mais leur montrer que si elles veulent, elles peuvent et que c'est possible. Ça, par contre, c'est un travail que tous les pères, pardon monsieur, et toutes les mères doivent faire.
Oui, et puis, je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'on ne doit pas le faire qu'auprès des filles, parce que malheureusement, les clichés, ils sont
par
surtout véhiculés aussi par les garçons. Et c'est quand même un peu facile dans certaines familles, quand au moment du débarrassage, on demande systématiquement à la fille d'aller remplir le lave-vaisselle pendant que le garçon va se mettre devant la télé avec son père. Ça commence par là, c'est par une éducation paritaire dans les familles, et par des pères qui respectent aussi les femmes à l'intérieur des foyers.
Juste une précision, parce que je me fais agresser par certains auditeurs parce que j'ai tempéré vos propos, votre coup de gueule sur pères divorcés. J'ai pas dit que les mères étaient toutes formidables et les pères tous des salauds.
Oui, oui.
Il y a des situations qui sont extrêmement compliquées, comme celle certainement de l'auditeur qui m'a traité de connasse.
Il y a de très nombreuses situations très complexes.
Mais j'ai le droit de dire qu'il y a 40% des pensions alimentaires qui ne sont pas payées.
Bien sûr.
Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas toutes payées. Je dis que c'est un vrai problème et j'ai juste apporté une précision. Donc je voulais dire cela et je sais qu'il y a des pères qui sont dans des situations extrêmement compliquées et que vous avez raison. Vous avez eu raison de dire ça. On va passer peut-être à... Ah non, on a Paul en ligne avec nous. Bonjour Paul.
Bonjour messieurs dames.
Bonjour Paul.
Vous allez bien? Alors moi je vais brasser un peu d'humour dans cette affaire-là.
Ah, allez-y, on fait ça avec humour, on se prend pas au sérieux.
On parle vrai sur Sud Radio.
Absolument. Hein,
voilà. On monte les hommes contre les femmes. On n'a pas besoin de ça.
Non.
C'est naturel. Hein, les femmes et les hommes se montent dessus. Point barre. Hein, et là, je suis très direct. C'est l'heure des dictatures féministes.
Oh, faut pas exagérer non plus. Là, je peux pas vous laisser dire ça complètement.
Allez-y, Paul. J'ai pas fini. C'est l'heure des dictatures vertes. C'est l'heure des dictatures politiques. C'est l'heure des dictatures religieuses. Il faut arrêter de monter les gens les uns contre les autres. On monte les retraités contre les jeunes.
Ouais.
Et on n'arrête pas.
Ouais.
Donc, il faut arrêter ça.
Ouais.
Les gens sont faits pour vivre ensemble. Et voilà. Et on discrimine les hommes. La personne avant qui est passée avant moi, l'auditeur, il a tout à fait raison.
Ouais.
Moi qui suis bien plus vieux que vous, madame, je vais vous dire quelque chose. Je pourrais vous expliquer comment je me suis fait subtiliser ma fille aux années 95-97. Je suis resté 10 ans.
Oui, oui.
Et malgré toutes les démarches que j'ai faites, sans avoir de nouvelles de ma gamine et sans pouvoir la joindre. voyez.
Oui, oui, mais c'est absolument, vous avez raison. Là, il y a vous abordez deux sujets, mais Laurence a eu entièrement raison de signaler ça, puisque déjà autour de la table, on a ces cas qui se sont posés et que c'est.
C'est les enfants qui trinquent, de toute façon, dans tous les cas de figure.
Merci de nous avoir appelés.
C'est vrai qu'il y a un abus de puissance, et je le répète, des maires, parfois, qui surutilisent leurs prérogatives pour priver leurs enfants de leur père.
Allez, on parle de Marion Maréchal-Le Pen. Là aussi, c'est un sujet
Marion
qui...
Marion Maréchal, plus Le Pen.
Plus Le Pen, vous avez raison.
Je ne veux plus qu'on l'appelle Le Pen.
Bah oui, mais c'est un peu comme le RN, j'ai du mal à dire. Voilà, faut se faire au nouveau. Alors, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que vous souhaitez son retour? Est-ce qu'elle fera son retour dans la vie politique d'ici l'élection de 2022? Vous êtes 7 Français sur 10 à le croire. C'est notre balise d'opinion IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio. En revanche, 36% des Français souhaitent son retour à la vie politique, une proportion qui est en forte hausse chez les sympathisants LR, à signaler. Vous y croyez? Alors peut-être Kevin
Oui, ben Marion Maréchal,
oui, voilà, vous aussi, voyez. Vous êtes
Donc est une femme très talentueuse, hein, c'est une femme qui est très structurée idéologiquement. Alors après, est-ce qu'elle va revenir? Je pense pas qu'elle reviendra tout de suite. Hein. Là, elle prépare son retour, elle est encore très attachée à l'école qu'elle a créée, notamment à Lyon. Et puis elle va avoir un gros souci, c'est que pour revenir, il va falloir qu'elle tue Marine Le Pen, sa tante. Ouais. Et ça, je pense qu'elle n'est pas prête de le faire. Il y a comme un blocage psychologique qui ne lui permet pas de faire ça aujourd'hui. Donc je pense qu'elle est dans l'attente, elle est en train de regarder ce qui est en train de se passer.
Oui.
Marion Maréchal avait fait un calcul qui ne s'est pas avéré. Je pense qu'elle avait pensé au début de la campagne des européennes que François-Xavier Bellamy ferait un score beaucoup plus important que celui qu'il a fait. Et c'est vrai que certains sondages ont porté François-Xavier Bellamy jusqu'à 13 ou 14%. Et que peut-être le Rassemblement national n'arriverait pas en tête. Et que donc il y aurait deux forces, non pas équivalentes, mais deux forces qui auraient pu se parler et se regrouper. On n'est plus du tout dans ce cas de figure. On est face à un Rassemblement national qui est arrivé en tête, même si c'est moins d'un point devant la liste d'Emmanuel Macron. Et on est face à une liste LR qui a fait un score le plus bas de toute son histoire, historiquement. Et la volonté de Marion Maréchal-Le Pen de réunir les droites, aujourd'hui, ne colle plus à la réalité du paysage politique. Donc, elle est revenue un peu précipitamment pour montrer qu'elle avait encore probablement des espérances pour son devenir politique. Elle n'était pas tout à fait partie de la politique. Mais je pense qu'elle est... la rapidité de la décomposition, et qui n'est pas encore de la recomposition de la vie politique, l'a totalement dépassée et que là, elle est en retard d'un train. Parce que j'ai entendu Marine Le Pen ce matin. Pourquoi? J'imagine que vous l'avez entendu ce matin. Oui. Marine Le Pen, elle est très claire. D'abord, elle a eu des mots vis-à-vis de sa nièce qui étaient pas si agressifs que ça. Mais elle est très claire. Elle dit si les gens veulent venir à nous, qu'ils viennent. Mais donc, il n'y aura pas d'alliance. Il y aura soit vous venez sur la ligne qui est la nôtre, le Rassemblement National, soit il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'alliance des droites, en tout cas pas avec Marine Le Pen. Alors peut-être que Marion Maréchal Le Pen, elle s'inscrit dans un avenir très lointain qui n'est pas celui de 2022, mais celui de 2027. Bon, là, on a le temps de voir venir. Mais je pense que là, elle a manqué
pour l'instant, elle a...
Elle n'a pas deviné en fait ce qui allait se passer, mais peut-être que personne n'aurait pu le deviner à sa place.
Ce sont des cartes postales là, qu'elle envoie.
Oui, mais parler d'alliance des droites quand il y a une droite extrême, même si elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, qui est très haute, et une droite classique qui est très basse, il n'y a pas d'alliance. Il y en a une qui va manger l'autre, en tout cas, qui a déjà commencé.
Alors, on a Jean en ligne qui veut réagir, après vous réagirez après autour de la table. Voilà, on a Jean. Bonjour Jean.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
En fait, effectivement, pour moi, le retour de Marion Maréchal-Le Pen, cela va provoquer encore une division de l'extrême droite. Ils vont se faire exploser tout seuls. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'effectivement, Marine Le Pen soit consentante pour le retour de sa nièce, en sachant qu'elle s'est vautrée lamentablement au présidentiel lors du débat contre Emmanuel Macron. Elle a fait du Le Pen où elle a été agressive, elle a été véhémente, elle a dit des choses sans grand fondement. Donc il est fort probable effectivement que ce soit une stratégie pour adoucir encore à nouveau le parti, ou alors de l'autre côté uniquement pour le faire exploser. Parce que Marion Maréchal-Le Pen...
Je ne sais pas si elle adoucit franchement le... Je ne sais pas si on peut parler d'adoucir, hein.
Bah, disons qu'elle est déjà physiquement, elle passe mieux. Hein. On va parler
c'est,
physique.
Comme dit une auditrice, c'est pas un concours de beauté la politique.
Non mais voilà, absolument. Mais
bon, elle est blonde, elle est jeune, elle est jolie. Voilà.
C'est ça. Donc si vous voulez, ça passe mieux au niveau de l'image. elle a toujours le sourire. Donc je pense que ça peut être également une stratégie de la part du Rassemblement National pour la faire revenir, en sachant que pendant près de 30 ans, le Front National à l'époque a été donc un contre-pouvoir et ça a arrangé bien tout le monde. Seulement aujourd'hui, ils font des scores super élevés. Donc, est-ce un vote d'adhésion, est-ce un vote de contestation? Le sujet n'est pas là. Mais en attendant, ils font un score qui peut leur permettre d'arriver à l'Élysée. Donc, effectivement, on peut voir en 2027 ce que ça va donner. Mais je ne pense pas, comme elle a tué le père, je ne pense pas qu'elle laissera sa nièce, si jamais c'est un retour de la nièce sans consentement de la tante, qu'elle la laissera arriver à la tête du parti. Ça me paraît vraiment trop gros comme truc.
Mais Marion Maréchal Le Pen a l'air de pas du tout de vouloir revenir au Rassemblement National. Elle a l'air de penser qu'elle va faire une route seule à l'extérieur du mouvement et que c'est autour d'elle que l'alliance des droites pourrait se faire.
Oui. Jean-Luc.
Moi, je pense que, alors, en dehors de la personne qui est pas trop sociale, qui est libérale, qui est catholique, qui est conservatrice, effectivement, qui a plus sa place peut-être avec un bel ami ou en tout cas à la droite. Le problème, c'est que la droite se rétrécit. Hein. Il y en a qui partent chez Macron, d'autres qui veulent plus ou moins aller chez Marine Le Pen. Mais je pense que c'est une stratégie parce qu'effectivement, Macron a joué avec les Gilets jaunes, le duo Marine Le Pen contre lui. Effectivement, il a perdu de très peu, mais il a perdu. Mais à la présidentielle en 2022, il a encore de beaux jours, puisque la gauche est complètement démise, ainsi que la droite. Donc effectivement, la stratégie du Rassemblement National, qui commence à changer de stratégie par rapport à l'époque Philippot, hein, sur le côté social, c'est peut-être d'attirer effectivement une grande partie de la droite pour que le plafond de verre puisse être dépassé. Parce que sinon, dans le dernier sondage, je crois, qui a été fait, elle ferait 43% et Macron ferait 57%. Donc, il y a une progression, mais cette progression ne va pas jusqu'à l'élection. Donc, est-ce qu'en fin de compte, le fait que Marion a été directement quelques jours après l'élection en se positionnant comme ça, est-ce que c'est pas une stratégie, justement, pour que une partie de la droite vienne vers le Rassemblement social dans un deuxième temps?
Allez, on se retrouve dans un instant, on poursuit ce débat. Marion Maréchal, l'attendez-vous? Attendez-vous qu'elle s'implique plus dans la vie politique? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi pour évoquer les sujets qui font l'actualité. C'est ce sondage IFOP Sud Radio pour Fiducial et CNews avec 38% des Français qui souhaitent que Marion Maréchal s'implique plus dans la vie politique française. Et en revanche, vous êtes 70% à croire qu'elle ne le fera pas. Dites-nous ce que qu'elle le fera. J'ai zappé. Donc Laurence, vous en pensez quoi? Vous pensez alors qu'elle va revenir?
Moi, je pense qu'elle est déjà revenue d'une certaine façon parce que elle est intéressante pour le Rassemblement National, justement sur une question primordiale qui est la question économique. Il y a une très grosse différence entre Marion Maréchal et Marine Le Pen sur le plan économique. Il y en a une qui est ultra libérale, qui effectivement est ultra conservatrice, et l'autre qui est plutôt étatiste et qui est devenue en réalité le premier parti ouvrier de France, puisque de toute façon la gauche a complètement abandonné ce terrain-là. Donc Marion Maréchal, elle parle plutôt justement à cette droite conservatrice et libérale. Et finalement, elle joue un rôle qui est effectivement de continuer à aller purger les voix des Républicains et d'aller chercher cette droite qui est la droite Bellamy, à mon sens. Après, moi je voudrais revenir sur les propos de l'auditeur tout à l'heure qui sont quand même assez intéressants, j'irais presque sexistes, sur la question de Marion Maréchal est jolie, donc elle pourrait être une bonne alternative. C'est quand même incroyable parce que c'est comme ça qu'on a eu un Emmanuel Macron au gouvernement, c'est que les gens, ils en sont au stade où, quand on fait une campagne électorale, ils vous disent pas votre programme m'intéresse, je vais voter pour vous. Ça m'est arrivé personnellement à plusieurs reprises, ils vous disent « Ah oh bah vous êtes jolie sur l'affiche, je vais voter pour vous ». C'est quand même incroyable que les Français votent en fonction de la tête du candidat ou des propos qu'ils ont entendus se faire galvauder, plutôt que en lisant les kits électoraux. Les kits électoraux, en règle générale, sont lus par 5% de l'électorat. Donc le jour où on éduquera, c'est déjà énorme, le jour où on éduquera, on fera de la pédagogie dès l'enfance pour expliquer ce que c'est que d'être citoyen, ce que c'est que de voter et quel est l'impact d'un vote, et ben peut-être que les Français voteront un petit peu plus avec leur tête qu'avec leurs pieds.
Oui, Kevin, vous suivez ?
Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec une partie de votre réponse, Laurence, c'est-à-dire qu'elle ne roule pas du tout pour le Rassemblement National, elle roule toute seule, elle est dans une bataille idéologique, elle veut faire gagner la ligne conservatrice et la ligne libérale au niveau économique, elle essaye de voir qui elle peut peu rassemblée. Quand on écoute François-Xavier Bellamy,
elle est très proche,
donc elle voit ce qu'elle peut faire à ce niveau-là. Puis c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur le métapolitique, qui pense que l'avenir politique se joue avec des enseignants, avec des avocats, avec des juges, avec des gens de la société civile qui vont s'investir. Et elle veut justement dépasser le Rassemblement National pour essayer d'unir les droites. Et la question se pose quand même quand on voit l'état de la droite aujourd'hui qui est complètement divisé.
D'ailleurs, elle s'est posée comme une force d'appoint et en aucun cas comme comme quelqu'un qui serait susceptible de revenir au Rassemblement National. Elle a dit que le Rassemblement National est
évidemment, elle va pas
indispensable,
le dire.
mais insuffisant, sous-entendu, je serai la force à côté qui permettra que l'offre sera suffisante.
Mais est-ce que vous y croyez à cette possibilité d'une réunion entre une droite Bellamy et une droite Marion Maréchal?
Aujourd'hui, non. Avec la génération qu'on a actuellement à la tête des partis, non. Mais plus tard, il faut voir. Il faut voir ce qui va se passer. Il va y avoir une recomposition. Je pense que l'Alliance des droites est surtout très populaire chez les jeunes militants LR et chez les jeunes militants du Rassemblement National et chez les jeunes militants de Debout la France. Et elle l'est moins, notamment chez les plus âgés, parce qu'il y a des verrous idéologiques, il y a des blocages qui sont inhérents, notamment à l'histoire de ce parti.
Il n'y a clairement plus de place, parce que de toute façon, la droite conservatrice, elle a voté Macron massivement. Donc, il y a
la droite libérale.
La droite, puis la droite conservatrice, la droite catholique, blanche, dont parlait ce monsieur tout à l'heure, elle a massivement reporté son vote sur Emmanuel Macron, qui a fait un coup de maître, je pense, avec les Bernardins. Et puis, de l'autre côté, on a la droite plutôt RN, qui, elle, qui est poreuse avec les Républicains, ce qui reste, qui est extrêmement poreuse. Donc, en réalité, il n'y a plus aucun espace politique pour les Républicains, et c'est pour ça qu'ils sont en décomposition. Il va falloir qu'ils réfléchissent vraiment leurs fondamentaux.
En tout cas, quand on voit le score qu'a fait François-Xavier Bellamy, on peut s'interroger sur ce que représente aujourd'hui cette droite conservatrice dont se réclame Marion Maréchal Le Pen. Et je ne sais pas très bien, pas très bien si ce segment électoral est amené vraiment à augmenter. On voit bien que les jeunes aux européennes, ils ont voté vert. Ils sont pas tentés par ces votes-là. Et c'est cette génération-là qui va petit à petit.
Ça, c'est pour les européennes, on verra où ils
vont. C'est ce que j'ai dit.
C'est un scrutin qui donne des indications sur l'appétence que peut représenter certaines lignes auprès des électeurs.
Il y a 10 ans, Europe Écologie Les Verts a remporté le scrutin universel. Et en l'occurrence,
pas tous en même temps.
C'est le premier scrutin universel depuis 2017, les Européennes. Donc ça donne une idée de la photographie politique du pays.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne pense pas que c'est la ligne idéologique de François-Xavier Bellamy qui l'a perdu. Je pense que les Républicains, ce n'est plus un parti crédible et c'est cela qui a fait perdre ce parti. Moi, je discutais avec des militants qui me disaient quand les électeurs voyaient François-Xavier Bellamy, ils étaient plutôt contents, ils l'aimaient beaucoup et quand ils retournaient le tract et qu'ils voyaient Laurent Wauquiez, ils ne voulaient plus en entendre parler. Je pense que c'est un problème de discrédit de cette famille politique qui, quand elle fait une campagne électorale, elle dit des choses et quand elle est au pouvoir, elle n'applique pas ce qu'elle dit. Et c'est ça qu'a payé François-Xavier Bellamy, et c'est pas sa ligne idéologique. D'ailleurs, c'est aujourd'hui la quatrième personnalité la plus populaire chez les sympathisants de droite. Donc si c'était sa ligne qu'avait perdue, il serait Arel Pacrette dans les sondages.
Alors, le retour de Marion Maréchal, carte postale, je sais pas si c'est une carte postale, si c'est une stratégie. En tout cas, le sondage qu'on a fait, c'était justement pour prendre la température un petit peu des Français. 37% qui souhaitent l'avoir joué un rôle, c'est pas une majorité, mais c'est un chiffre important. C'est quand même pas anodin.
Non, c'est pas anodin, mais bon, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de la ligne idéologique de Marion Maréchal Le Pen? Le problème, c'est que les gens répondent souvent parce qu'ils trouvent que la personne a l'air sympathique sur son physique. Donc, il serait temps
je pense qu'aujourd'hui, elle a dépassé. Franchement, je pense qu'elle a dépassé ce stade-là, Marion Maréchal. Elle a prouvé qu'elle avait une stature, qu'elle était capable de parler, de s'exprimer et de défendre des idées.
Elle incarne surtout une espérance chez tous ces militants de droite qui ne voient pas l'avenir de la droite telle qu'elle est aujourd'hui. Et les gens se disent, mais pourquoi on pourrait pas rassembler les droites, faire un programme en commun autour d'une ligne libérale, autour d'une ligne conservatrice? C'est cette espérance qu'elle incarne.
Moi, je voudrais quand même revenir sur la campagne de François-Xavier Bellamy. J'ai été à plusieurs de ses meetings et je les ai trouvés très intéressants. Mais je note que quand il a eu des déclarations et que moi j'ai trouvé personnellement très raide sur l'affaire Vincent Lambert, les sondages ont immédiatement chuté. Et je pense qu'il y a une partie de l'électorat qui était prête à voter pour lui et qui s'est dit, ah ben ça non, là vraiment, c'est pas ma ligne de pensée, c'était trop et c'était ce que j'appellerais trop conservateur et trop dur à entendre, dur à entendre pour une partie des Français, une grande partie des Français qui ont tous connu dans leur famille des gens en fin de vie, des gens dont on s'interrogeait sur la pertinence de poursuivre ou non des traitements et ce qu'il a dit sur l'affaire Vincent Lambert, moi personnellement ça m'a choqué et je pense que ça a choqué beaucoup de gens malgré tout.
Je pense qu'il a eu tort en effet de dire ça, ça a pu lui faire perdre des points mais ça lui a pas fait perdre 3, 4, 5 points, ça lui a fait perdre des points à la marge et je pense que le gros problème problème, c'est le discrédit des Républicains aujourd'hui.
Vous avez tout à fait raison, je vous rejoins sur ce point. Qu'on n'arrive pas à 8% impunément.
C'est plus leur avocat apparaissait dans la campagne, d'ailleurs, parce qu'il est beaucoup plus apparu à la fin de la campagne qu'au début, plus il apparaissait dans la campagne, plus les gens commençaient à
dire... C'est Bocquet qui a plombé Bellamy, je crois.
Pas uniquement, non, justement, pas uniquement, c'était mon point, pas uniquement.
Moi, je vais vous annoncer quelque chose, c'est du fait que les revendications... du mouvement des Gilets jaunes du 17 novembre n'ont absolument pas été, en tout cas en grande partie, pas réglées. En tout cas, pour la majorité des gens qui soutiennent ce mouvement.
Pour les retraités, ça a été réglé en partie. D'ailleurs, ils sont sortis de la rue.
On a réobtenu ce qu'on avait perdu.
D'accord, mais vous l'avez réobtenu.
Et encore, parce que moi, je fais partie des gens qui sont juste au-dessus, donc j'en ai même pas bénéficié. Mais c'est pas le sujet. Mais
une partie du sujet que les retraités.
On va conserver notre
mouvement
jaune et citoyen parce que je pense que personne n'en parle. Alors que ça fait l'actualité pendant 6 mois, que les gens, alors je ne parle pas des manifestants, même si ça diminue, mais que le mouvement profond, il n'a pas été réglé, ni sur la démocratie, ni sur la justice fiscale et la justice sociale, et que malheureusement aujourd'hui, aucun parti, ni de gauche ni de droite, excepté peut-être le Rassemblement National. Et tu as raison, Laurence, le Parti des ouvriers et des employés, c'est le Rassemblement National.
Ouais.
Donc si on pense que l'avenir, c'est le libéralisme, je pense que monsieur,
c'est une erreur grave.
C'est une grave erreur.
Et ce qu'il y a d'intéressant chez Marion Maréchal, c'est justement, elle fait le lien entre la droite et les Gilets jaunes. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que les Républicains, c'est encore une droite orléaniste, un peu bourgeoise, etc., qui n'aimait pas du tout les Gilets jaunes. Marion Maréchal, elle veut revenir à une droite plus populaire, ce qui était le RPR, elle fait un lien entre sa façon de... Par le libéralisme aussi, le libéralisme n'est pas forcément antisocial. Au contraire, ça peut travailler plus pour gagner plus. La défiscalisation des heures supplémentaires, ça peut être considéré comme libéral, mais à la fin, les ouvriers, ils voient les conséquences sur leur pouvoir d'achat.
Moi, je vois votre enthousiasme à propos de Marion Maréchal Le Pen.
Oh, c'est pas un enthousiasme.
Je rappelle que c'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen et que Jean-Marie Le Pen lui a trouvé une circonscription en or.
Ah, mais aussi.
Et qu'elle n'a été élue que parce qu'elle était dans la circonscription la plus favorable du Front National. Ça n'en fait pas une personnalité politique de premier plan.
Il faut rappeler ses positions sur l'IVG. Et sur le planning familial, c'est qui pour moi reste rédhibitoire.
Et sur LCI, elle a dit qu'elle n'était pas pour supprimer l'IVG.
Elle a dit qu'elle n'y était pas opposée. Hein.
Oui, mais enfin, elle était pour supprimer les subventions au planning familial.
Eh bien, je pense qu'elle aura l'occasion de se réexprimer sur le sujet.
On verra la stratégie.
Merci,
si
oui, absolument. Merci à tous les quatre. On n'a pas eu le temps de parler des 80 km/h, mais on y reviendra évidemment.
Parce à toute vitesse.
À toute vitesse. Mais avec prudence.
On y reviendra lentement.
Merci à vous. Très bon week-end dans un instant. André Bercoff, très bonne journée sur Sud Radio.